Salut et bienvenue à toi, amateur d'écologie, mais aussi individu soucieux du bien-être de ton porte-monnaie. Je suis très heureux de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast de la Terre dans les épinards. Le 18 mars dernier, c'était la journée mondiale du recyclage, l'occasion de se pencher sur cette solution de traitement de nos déchets et de voir un peu ses avantages et ses inconvénients. Réduire, réutiliser, recycler, les 3 R. Voilà un triptyque dont tu as sans doute entendu parler ces dernières années. Outre une ligne directrice à avoir en tête au quotidien, c'est aussi le nom d'un décret paru récemment dans le cadre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui prévoit la fin des emballages en plastique à usage unique d'ici 2040. Le décret 3R se focalise plus particulièrement sur la période de 2021 à 2025. Parmi les objectifs fixés, on trouve notamment celui de tendre vers 100% de recyclage des emballages plastiques à usage unique d'ici le 1er janvier 2025, premier pas vers la fin des emballages plastiques à usage unique prévu en 2040. Un objectif ambitieux si l'on considère les données d'un rapport publié le 22 février 2022 par l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, intitulée « Perspective mondiale des plastiques ». En 2019, la quantité de déchets plastiques dans le monde équivalait au poids de 35 000 tours Eiffel, ce qui n'est certes pas une unité de mesure très familière, d'autant que peu de gens ont eu l'occasion de soupeser la dame de fer, mais ça reste un chiffre qui laisse à penser que ça fait quand même beaucoup. Il peut donc être utile de préciser que la tour Eiffel pèserait environ 10 000 tonnes. La quantité de déchets plastiques générés dans le monde en 2019 équivaudrait donc à environ 350 millions de tonnes. Sur cette quantité pharaonique, 9% seulement du plastique produit a été recyclé cette même année. La moitié a été placée en décharge, 19% ont été incinérés, et les 22% restants échappent au système de gestion des déchets et se retrouvent notamment dans l'environnement. L'empreinte carbone du plastique tout au long de son cycle de vie s'est élevée au niveau mondial à 3,4% des émissions de gaz à effet de serre en 2019. Je suis sûr que toi qui suis avec assiduité ce podcast, tu as immédiatement fait le lien avec l'épisode sur l'impact du numérique et tu t'es dit « Mais c'est le même ordre de grandeur que l'empreinte carbone du numérique en 2017, et tu as raison !» Autant de chiffres qui mettent en avant, si besoin était, la problématique de la gestion des déchets plastiques et plus généralement de la gestion des déchets tout court. Parmi les solutions à notre disposition, il y a bien entendu celle du recyclage sur laquelle s'appuie le décret 3R pour l'objectif 100% de recyclage des emballages en plastique à usage unique d'ici 2025. Mais le recyclage, que ce soit pour du plastique, du verre ou d'autres matériaux, n'a pas que des avantages. Alors faut-il effectivement miser dessus ou n'est-ce qu'une manière de cacher la poussière sous le tapis? Et en fait, de cacher la poussière sous le tapis, on n'est pas loin de la réalité puisque, comme l'indique l'Agence européenne pour l'environnement dans un article du 28 octobre 2019 intitulé « The Plastic Waste Trade in the Circular Economy », ce qui donnerait dans la langue de Molière le commerce des déchets plastiques dans l'économie circulaire, l'Union européenne exportait début 2019 près de 150 000 tonnes de plastique par mois, soit 15 tours Eiffel. Et je sais pas pourquoi je continue avec les tours Eiffel. Mais j'aime bien. 150 000 tonnes donc. La Chine ayant fermé ses portes en 2018 aux exportations de plastique, ces déchets ont été dirigés vers d'autres pays d'Asie. L'un des problèmes soulevés par l'Agence européenne pour l'environnement est qu'on ne sait pas exactement comment ces déchets sont traités. Cela pose aussi de graves problèmes sanitaires dans ces pays-là. Je t'invite, pour te faire une idée plus précise du sujet, à lire la partie qui lui est consacrée dans le livre « Journal de guerre écologique » du journaliste Hugo Clément. L'Agence européenne pour l'environnement préconise donc de développer en Europe la réutilisation et le recyclage. Pour autant, le développement de la filière du recyclage peut s'avérer problématique. Tout d'abord, le recyclage a un coût. D'après un article de France TV Info publié le 7 juin 2019 et intitulé « On vous explique pourquoi le recyclage du plastique est en train de créer une crise mondiale des déchets », les frais de recyclage aux États-Unis ont explosé suite au durcissement des importations des déchets en Asie et en l'absence d'infrastructures suffisamment développées. Toujours selon l'article, la moitié des déchets recyclables de la ville de Philadelphie en 2019 ont été incinérés, soit 200 tonnes par jour. Je te laisse faire tout seul la conversion en nombre de tours Eiffel. En France, selon un article de l'Institut national de la consommation datant du 23 novembre 2020 et intitulé « Qui paie pour le tri et le recyclage de nos emballages et papiers ?», le recyclage est financé à 80% par les entreprises, le reste étant assumé par les collectivités et les impôts locaux. Double peine donc pour le consommateur qui paie l'emballage à l'achat et contribue financièrement au recyclage pour un déchet qui n'aura finalement que peu voire pas d'utilité. Deuxième problème, comme le souligne Flore Berlingen, présidente de l'association Zero Waste France de 2013 à 2020, et invité de l'émission « La Terre au carré » diffusée sur France Inter le 5 octobre 2020, présentée par Mathieu Vidard et intitulée « Recyclage, un mirage dans la réduction de nos déchets ». Comme le souligne Flore Berlingen donc, le recyclage est loin d'être qualitatif pour tous les matériaux. Pour le plastique, il est nécessaire de rajouter de la matière plastique vierge pour en faire un objet réutilisable. Par ailleurs, son recyclage n'est pas infini, donc il y a un moment où il deviendra un déchet non recyclable, et on ne fait donc que reporter le problème un peu plus loin dans le temps. Pour le verre ou le métal, si le recyclage est plus abouti, il nécessite des quantités d'énergie élevées, aussi bien pour sa collecte que pour son traitement. Troisième problème, dans le cas particulier du papier, le recyclage peut être contre-productif pour l'environnement. Selon un article de YouMatter, datant du 26 octobre 2020 et intitulé « Le recyclage du papier est pas forcément bon pour le climat », le recyclage du papier nécessiterait des énergies plus carbonées que la production de papier vierge à partir du bois. L'article cite une étude réalisée par des chercheurs de l'University College de Londres et de l'Université de Yale, selon laquelle le virage de l'industrie du papier vers une économie circulaire pourrait conduire à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Il faut noter que ces conclusions sont spécifiques au cas du papier. En tout cas, on le voit, le recyclage est très loin d'être une solution miracle et sa pertinence semble dépendre grandement du matériau considéré. Alors, faut-il pour autant l'abandonner ? Non, bien sûr, c'est une solution qui, pour imparfaite qu'elle soit, a le mérite d'exister et doit être intégrée au panel des solutions existantes pour une planète moins polluée. Si nous avons la possibilité de pouvoir recycler même partiellement un matériau en fin de vie, il ne faut surtout pas s'en priver. Mais il faut lui laisser cette fonction-là de solution de dernier recours et le recyclage ne doit pas devenir un prétexte au tout jetable. Il ne s'agit pas de ne rien faire d'autre en s'imaginant que parce que le déchet est recyclable dans la théorie, le problème est réglé. On l'a vu, seuls 9% des déchets plastiques étaient recyclés dans le monde en 2019. En France, en 2018, ce taux était de 24%, d'après le site notre-environnement.gouv.fr. Parmi les déchets potentiellement recyclables, tous ne sont pas recyclés. Il est donc essentiel de remonter à la source et, pour ce qui concerne le consommateur, d'orienter son choix vers des solutions moins génératrices de déchets. Parmi les solutions envisageables, certaines commencent à être bien connues et on le vend en poupe. Acheter en vrac, il est maintenant courant de pouvoir amener son propre contenant, mais il est possible d'utiliser les sachets mis à disposition par les commerçants, à condition bien sûr de les réutiliser par la suite. De plus en plus de produits s'achètent en vrac, de la pâte à tartiner aux produits vaisselle en passant par les lentilles et les noix de cajou. Renseigne-toi pour découvrir autour de chez toi les enseignes qui vendent en vrac, tu prends ton contenant avec toi et hop, tu vas faire les courses. En plus, l'avantage du vrac, c'est que tu te concentres davantage sur le produit en lui-même, que tu achètes donc pour ce qu'il est plus que pour son emballage savamment designé. Parce que ne nous leurrons pas, on achète souvent bien plus pour l'emballage que pour ce qu'il y a dedans, ce que les experts en marketing savent pertinemment. Deuxième solution, privilégier les grandes quantités. Par exemple, en achetant tes pâtes ou ta farine, tu réduis ainsi la quantité d'emballage, en plus de payer moins cher au kilo. C'est pas merveilleux ça ? Tu peux aussi te renseigner sur les systèmes de consigne en place autour de chez toi. Toutefois, il faut garder en tête que le gain environnemental du système de consigne pour réemploi du verre dépend de divers paramètres, incluant le transport des bouteilles en particulier pour le lavage et le nombre de réutilisations de l'emballage. Selon une étude menée par DeRoche Consultant en 2009, intitulée « Bilan environnemental de la bouteille en verre consignée 75 centilitres Alsace », commercialisé dans l'est de la France par comparaison avec une bouteille en verre à usage unique, le réemploi du verre permettrait de diminuer, sous certaines conditions, de 80% les émissions de gaz à effet de serre en comparaison avec un emballage en verre à usage unique sur l'ensemble du cycle de vie. De même, la consommation d'énergie primaire de l'emballage consigné est égal à environ un quart de la consommation d'énergie primaire pour l'emballage à usage unique. Mais cela implique une gestion locale des emballages en verre, en particulier pour s'affranchir de la problématique du transport, faute de quoi le gain environnemental du système de consigne pourrait diminuer. Mais surtout, on n'oublie pas la base qui est de ne pas surconsommer. Je parle de ça pendant près d'une demi-heure dans le premier épisode du podcast si tu as besoin d'une piqûre de rappel. On le voit, les solutions techniques de recyclage ne sont pas optimales et le process de gestion des déchets est encore clairement imparfait et peut-être coûteux. Le mieux est donc encore de réduire les déchets et donc de revoir sa manière de consommer. Et en parlant de déchets, il n'est pas possible de terminer cet épisode sans mentionner le projet conduit par la ville de Roubaix dans le nord de la France. En 2014, la ville répond à un appel à projet lancé par le ministère de l'écologie en faveur du zéro déchet. Depuis, la ville est devenue pionnière du zéro déchet, un mouvement dans lequel sont impliquées les familles, les écoles, les pouvoirs publics, les associations, les entreprises et les commerçants. Le défi zéro déchet proposé par la ville permet aux familles qui le souhaitent de s'inscrire gratuitement dans une démarche zéro déchet, tout en étant accompagné au moyen d'ateliers. La ville organise également des événements dont le festival Zéro Déchet et la semaine de réduction des déchets. Depuis 2014, 500 familles ont participé à ce projet et 26 communes ont emboîté le pas à la ville de Roubaix. Les chiffres avancés par le site du projet, roubaixzerodéchet.fr, indique une réduction de 47% des déchets et des économies de 1000 euros par famille sur une année. Si tu veux y jeter un œil, le site a aussi une rubrique recettes et astuces qui peut potentiellement t'intéresser. Le projet de la ville de Roubaix est donc une expérience grandeur nature qui semble rencontrer un fort succès. Et si on s'en inspirait ? Petite recommandation lecture en complément, je t'invite à jeter un œil au livre « Famille presque zéro déchet, The Guide » écrit par Bénédicte Moret et Jérémy Pichon, de la famille Zéro Déchet qui te proposera tout un tas de recettes zéro déchet dans un peu tous les domaines si tu ne sais pas par quoi commencer. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Si oui, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait aux pages Instagram de La Terre dans les Épinards, à la page Facebook, à la newsletter du site de laterredanslesépinards.fr. Bref, à tout. Et n'hésite pas à me dire aussi dans les commentaires Insta ou Facebook ou par email s'il y a des sujets liés à l'écologie au quotidien que tu aimerais voir abordés et je verrai ce que je peux faire. Et en attendant le prochain épisode, prends soin de toi, de ton environnement et de ton porte-monnaie. Et on se retrouve en pleine forme. Salut !